Vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Radio Alzheimer. Aujourd'hui, on va parler de loisirs, de bien-être, mais aussi de recherche. Et oui, on peut lier tout cela à la fois, puisqu'on va répondre à vos questions autour du jeu. Oui, de l'action de jouer, de 7 à 77 ans comme on dit, mais bien avant et bien après aussi. Plus spécifiquement, on va s'interroger sur les bénéfices de la ludothérapie dans l'accompagnement de personnes atteintes d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Et pour ouvrir nos horizons sur ce sujet, on a le plaisir d'avoir en ligne Cédric Guéraud. Bonjour.
Bonjour Mallory.
Cédric, vous êtes directeur du Centre national de formation aux métiers du jeu et du jouet à Lyon, et vous êtes aussi chargé d'enseignement à l'Université Lyon 2 en psychologie, mais aussi en sciences de l'éducation, on va en reparler. En quelques mots déjà pour ceux qui découvrent peut-être ce terme, c'est quoi la ludothérapie ?
De façon très simple, hein, comme son nom l'indique, la ludothérapie, c'est une thérapie par le jeu et elle s'inscrit principalement dans le courant des approches non thérapeutiques. Elle a pour objectif d'attribuer des finalités thérapeutiques au jeu. Elle est en train de nous dire finalement que le jeu tisse des liens avec la santé. Voilà. Si on retrace un peu son origine, on peut trouver une de ses origines au début du XXe siècle avec Winnicott, qui, voilà, ça parle à tout le monde, cette idée d'objet transitionnel avec la référence du doudou chez le jeune enfant. Mais il allait bien au-delà, il nous disait que finalement, le jeu, c'est ce qui peut faire transition entre notre réalité interne et notre réalité externe. C'est-à-dire, par exemple, pour une personne âgée, elle peut vivre dans un contexte, dans une réalité externe qui lui fait ressentir des choses, sa réalité interne, par exemple la solitude. Et cette approche-là nous dit que le jeu en tant qu'objet transitionnel peut permettre à ces personnes de mieux accepter leur quotidien quand ce dernier est problématique. Peut-être pour resituer aussi tout et contextualiser une approche un peu plus contemporaine, la ludothérapie aujourd'hui est principalement utilisée dans une approche avec un objectif comportemental, un objectif fonctionnel ou un objectif cognitif.
Justement, quel genre d'objectif thérapeutique par exemple ?
Oui, par exemple, dans la ludothérapie appliquée au vieillissement, on va avoir ce qu'on appelle un objectif comportemental, les doll thérapies, par exemple, des ludothérapies qui utilisent des poupées pour apaiser les tensions émotionnelles des personnes âgées. Un objectif fonctionnel, c'est plutôt un objectif qui a une intention avec des vertus thérapeutiques au niveau, par exemple, de la motricité globale ou de la motricité fine des personnes âgées. Ou un objectif cognitif, c'est-à-dire que le professionnel va utiliser des jeux pour faire travailler la mémoire, par exemple. Voilà, c'est principalement ces trois objectifs qu'on rencontre dans le champ du vieillissement avec l'utilisation de la ludothérapie. En fait, aujourd'hui, le professionnel de santé va viser en premier un objectif thérapeutique et cet objectif va influencer évidemment sa sélection de jeux, mais aussi le cadre de la médiation. Et le choix du jeu, en fonction d'un objectif thérapeutique, peut risquer de faire perdre le plaisir qui est censé être propre à la situation de jeu.
On peut facilement oublier le plaisir de jouer. On va pouvoir en parler, parce que vous avez consacré une thèse autour du jeu et de la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment l'objet de vos recherches. Vous avez notamment fait une thèse en sciences de l'éducation intitulée « Jeu et maladie d'Alzheimer, le jeu libre comme intention de soins en direction des résidents d'EHPAD atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Cette thèse, c'était l'occasion de se dire qu'on pourrait revenir un peu plus à l'essence du jeu, c'est-à-dire au plaisir du jeu. Et peut-être trop souvent, on dénature le jeu en lui donnant en première intention un objectif thérapeutique. Et finalement, si on redonnait le plaisir premier au jeu, est-ce qu'on en obtiendrait des effets thérapeutiques ? Et donc, c'était un peu toutes mes réflexions en essayant de faire pleinement confiance au jeu, c'est-à-dire de créer un cadre, des conditions de jeu pour que ces personnes âgées souffrant de troubles cognitifs puissent ressentir le plaisir de toute situation de jeu qu'on pourrait ressentir à tous les âges de la vie. Et d'essayer de montrer que naturellement, un peu à l'image quand je retraçais Winnicott au début de mon intervention, que finalement ce jeu naturel peut avoir des vertus thérapeutiques. Et donc l'objectif de ma thèse, c'était effectivement à la fois de remettre en valeur le plaisir du jeu et de construire des conditions que j'ai appelées le cadre ludique pour essayer de montrer qu'il est possible de faire jouer des personnes âgées à tous les âges de la vie, mais aussi malgré l'avancée d'une maladie, et que finalement ce jeu-là pouvait avoir des vertus thérapeutiques, c'est ce que j'ai démontré en tout cas.
Alors, c'est très difficile pour les personnes qui en sont à un stade avancé de la maladie, ou en tout cas, c'est très difficile pour l'accompagnateur ou pour l'aidant de trouver un jeu adapté. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans le cadre de vos recherches? Comment ça s'est déroulé?
En effet, hein, c'est difficile, voilà, de faire advenir des conditions de jeu naturelles à un stade avancé, mais souvent ce n'est pas lié à la capacité de jouer de la personne âgée, c'est plutôt lié à un choix de jeu inadapté. Et on s'aperçoit trop souvent que finalement, quand on utilise des jeux de société, la personne âgée est en difficulté et souvent l'aidant ou l'accompagnateur a besoin d'aider cette personne à jouer. On se rend compte également que même si c'est louable, hein, d'aider la personne âgée n'est pas forcément bénéfique pour elle, ou du moins elle ne permettra pas d'obtenir les effets du jeu, puisqu'on est en train indirectement de lui montrer et de pointer du doigt ce qu'elle ne sait pas faire. Alors qu'en théorie, dans le jeu plaisir, dans le jeu que nous vivons, voilà, au quotidien, dans nos vies personnelles, le jeu ne pose jamais problème. C'est-à-dire que quand on joue dans notre vie privée, souvent les règles sont maîtrisées. On nous donne les règles, on nous les explique une fois, mais au bout d'un moment, elles ne posent plus problème. À partir du moment où la règle pose problème, c'est que finalement le jeu qui est en face de la personne pose problème. Et donc là, on va avoir plusieurs méthodes, hein. La première est évidemment de simplifier le jeu. Ça, on le fait souvent de façon intuitive. Nous, on va avoir une approche professionnelle pour essayer de mieux adapter un jeu de société, par exemple. Mais trop souvent, on arrive devant une personne avec un jeu et avec une intention de lui faire respecter une règle du jeu. Et on oublie parfois de se poser dans la posture suivante et de se dire, mais finalement, lui, à quel jeu il va me faire jouer avec le support que je lui donne. On va être dans une posture où finalement on va inventer avec lui une règle du jeu et non plus lui dicter une intention de jeu. C'est un peu comme dans les premiers jeux, voilà, dans notre rapport au jeu. Dans nos premiers jeux, finalement, c'est nous qui inventions nos règles du jeu. La différence entre un jouet et un jeu de société, c'est que finalement, dans un jouet, entre guillemets, l'enfant, puisqu'on parle souvent d'enfant, invente sa règle du jeu, alors que dans un jeu de société, il se soumet à une règle du jeu extérieure à lui-même. Et à un moment donné, avec l'avancée des troubles cognitifs, la personne âgée va être en difficulté pour suivre une règle qu'on lui impose. Par contre, il lui reste encore tout un pouvoir créatif pour s'appliquer elle-même ses propres règles. Donc là, on va essayer de mettre en face d'elle des supports qui sont source de créativité pour qu'elle puisse elle-même se dicter ses propres règles. Et on va rendre le jeu beaucoup plus accessible en ce sens.
Alors, de par votre expérience et vos recherches, vous avez donc pu déceler et mettre en place des bonnes pratiques. On y reviendra hein, d'ailleurs dans un autre épisode où vous êtes également invité. Quelles sont les vertus que vous avez pu observer lors d'une séance de jeu naturelle où le plaisir était au centre, le bien-être également? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Qu'est-ce que vous avez pu mesurer? Quelles sont les vertus observées lors de ces séances?
Ben oui, effectivement, on a essayé de mesurer finalement l'impact thérapeutique d'une séance de jeu la plus naturelle possible, l'impact finalement thérapeutique du plaisir du jeu. Et on a choisi d'évaluer plusieurs choses, notamment les interactions sociales, le bien-être, la qualité de vie et les troubles du comportement. Donc là, on a utilisé des échelles de mesure plus ou moins standardisées et on s'est aperçu d'une part que les troubles du comportement les plus problématiques des résidents souffrant de troubles cognitifs diminuaient à hauteur de 50% en intensité sur l'ensemble de la durée des séances de jeu. La deuxième chose qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, le bien-être de la personne évoluait au fur et à mesure d'une séance de jeu. C'est finalement un peu comme nous dans la vie quotidienne, quand on fait une activité ressourçante, on se sent mieux à l'issue de cette activité. Ben, on a pu mesurer de la même façon qu'une personne âgée, à l'issue d'une séance de jeu qui lui correspond, eh ben, elle va se sentir elle-même beaucoup mieux. Et enfin, on a mesuré un petit peu les interactions sociales en se rendant compte que finalement, au moins on essayait de faire jouer les personnes âgées qui étaient dans des stades avancés de la maladie d'Alzheimer en groupe, et au plus on était dans une approche individuelle ou en groupe très restreint et sur une durée limitée, au plus indirectement les interactions sociales étaient favorisées. On a souvent tendance à se dire de faire jouer les personnes en groupe pour favoriser les interactions sociales, et bien là on a pu démontrer finalement un petit peu l'inverse. Voilà, avec finalement des pôles de jeu un petit peu plus individualisés, mais qui sont également au service des interactions sociales de ces personnes-là.
Des bénéfices qui sont multiples, donc des vertus, si je récapitule, à la fois culturelles, éducatives, thérapeutiques, donc évidemment, et sociales, c'est très important. La maladie a tendance à isoler. cette séance de jeu qui a été imaginée pour le patient, on n'y pense pas assez, mais elle peut aussi être bénéfique pour l'aidant, cette séance de jeu.
Et oui, en fait, elle est à la fois bénéfique pour l'aidant, qu'il soit finalement un aidant familial ou un aidant professionnel. On a pu remarquer qu'au niveau de l'aidant personnel, la famille, il est parfois difficile d'accepter finalement le jeu tel qu'il devrait être. On voit souvent les familles aider ou essayer de maintenir sur un jeu qui est un petit peu difficile pour son parent. Et on s'aperçoit qu'au plus la famille arrive à accepter finalement le bon jeu, à faire le choix du bon jeu, au plus il y a un lien direct avec sa capacité à accepter la maladie de son parent. C'est-à-dire que le jeu naturel est corrélé à l'acceptation de la personne telle qu'elle est. Et souvent, finalement, on n'accepte pas la personne telle qu'elle est, on est souvent dans la résistance de maintenir des compétences qui commencent à être mises à mal. Et finalement, le jeu nous oblige à accepter la personne telle qu'elle est. Donc ça va être vraiment une première vertu. Et en réussissant à créer une vraie situation de jeu, finalement, on crée une alliance. On peut parler d'alliance thérapeutique dans le cadre professionnel, ou on peut parler finalement juste de confiance, quel que soit l'aidant. Et donc ça va être des bénéfices finalement au service des accompagnateurs, quels qu'ils soient.
Et alors, est-ce que vous auriez des exemples de ce que le jeu a pu procurer? Est-ce que vous auriez des anecdotes peut-être qui vous ont marqué?
Oui, en effet, moi j'en ai une qui m'a particulièrement marqué. Et d'ailleurs, c'est l'anecdote qui m'a fait reprendre les chemins de la fac à 40 ans pour aller mener une thèse de doctorat. Je menais des séances de jeu dans une unité de vie protégée. On avait un petit pôle de jeu parmi d'autres avec des jeux de construction. Et j'observe une résidente en train d'utiliser ce jeu de construction et construire trois pyramides, hein, une grande, une moyenne et une petite. Et à la fin, finalement, de sa construction, avec face à elle ces trois pyramides, je sens en elle finalement une joie et un plaisir assez intenses. Et là, elle se lève et elle me dit « Venez monsieur, je vais vous amener faire quelques indiscrétions ». Ne comprenant pas trop où elle voulait en venir, je la suis. Et là, je me rends compte qu'elle rentre dans une chambre qui n'était pas la sienne, pour rappel, faire quelques indiscrétions, pour finalement récupérer un calendrier annuel. Et elle retourne trois pages, donc trois mois en arrière, et elle me montre la photo de trois pyramides d'Égypte qui représentaient exactement les trois constructions qu'elle avait faites. Finalement, les indiscrétions qu'elle voulait me faire, c'était celle de rentrer dans une chambre qui n'était pas la sienne. Et voilà, cette réminiscence que le jeu a fait pour aller se souvenir que dans une chambre qui n'est pas la sienne, il y avait un calendrier, que trois mois avant, il y avait les pyramides d'Égypte, m'a vraiment coupé le souffle et m'a donné envie de reprendre le chemin de la fac pour essayer de démontrer scientifiquement la pertinence de tout ça.
Eh bien oui, en effet, ça donne envie de poursuivre.
Oui, tout à fait. Et c'est bien ça, la thèse commence à dater de quelques années. Aujourd'hui, on a envie de poursuivre dans cette direction. Évidemment, on a créé une médiation de groupe qui est principalement à destination des EHPAD, des unités de vie protégées, des maisons de retraite, pour aider les professionnels à mettre en place des séances de jeu auprès de leurs résidents. Mais on a souhaité également poursuivre dans une approche plus individuelle, notamment avec le jeu à domicile, donc du coup, avec finalement des personnes qui sont moins avancées dans leurs troubles cognitifs, en créant le concept d'une malle universelle qui permet de rentrer plus facilement en jeu dans une sphère familiale et dans une relation plus duelle ou plus solo. Et on a également réfléchi au concept de chariot d'activité ludique qu'on va pouvoir rencontrer dans les accueils de jour, dans les maisons de retraite, et là qui permet effectivement, sur des temps un petit peu informels, de proposer du jeu à caractère individuel ou de façon informelle auprès d'un petit groupe, ou surtout de proposer à la famille finalement de rentrer en relation avec son parent à l'aide d'un jeu qui est adapté. Donc voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui avec trois médiations qui partent tous de cette première culture et de ces premiers travaux de recherche que j'ai pu mener dans le cadre de mon doctorat.
Un sujet qui nous apporte beaucoup de légèreté, mais qui mérite beaucoup de travail, on le voit bien.
Exactement.
Et on dédiera d'ailleurs un focus sur cette fameuse malle universelle. Et puis, on l'a bien compris avec vous, la ludothérapie a de nombreux bénéfices. On a la réponse à notre question. Mais pour cela, de bonnes pratiques sont indispensables. Dans quel contexte faire un jeu? Quel type de jeu privilégier avec son proche malade? À quoi faire attention? On va parler de ce cadre ludique dans un prochain épisode avec vous. Donc j'invite évidemment nos auditeurs et nos auditrices à écouter cet épisode complémentaire.
Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Mallory.
Merci à vous pour vos éclairages et à bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.